Vous écoutez France Culture, il est midi et demi. Le journal de la rédaction vous est présenté par Anne Fauquemberg. Bonjour.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Un équilibre précaire au Kenya dans l'attente des résultats définitifs de l'élection présidentielle. L'opposition dénonce l'impartialité de la commission électorale qui place en tête le chef de l'État sortant, Kenyatta. Les rapports des observateurs internationaux dans ce contexte sont donc attendus. Nous serons en direct à Nairobi avec Bruno Meyerfeld au début de ce journal. Il a les premières conclusions justement des observateurs de l'Union européenne. Le SPD toujours en difficulté en Allemagne à quelques semaines des législatives. Les sociaux-démocrates sont même en train de perdre leur ancrage traditionnel en Basse-Saxe, va nous dire Nathalie Versieux. Un journaliste turc exilé en Suède s'est fait arrêter en Espagne à l'occasion d'un voyage. Madrid exécute un mandat d'arrêt international émis par Ankara qui, on le sait, est particulièrement susceptible à l'égard des médias actuellement. Mathieu Dataillac va nous expliquer les ressorts judiciaires de cette affaire. En France, du changement à la tête de l'ENA, Patrick Gérard vient de succéder à Nathalie Loiseau, partie au ministère des Affaires européennes. Nous ferons son portrait avec Camille Magnard. Et puis de nouvelles mesures pour protéger l'audition du public en festival viennent d'être publiées au journal officiel. Parmi celles-ci, des zones de repos auditives. Marina Capitaine va nous l'expliquer à la fin de ce journal. Le Kenya est donc toujours dans l'attente de l'officialisation des résultats de l'élection présidentielle du début de semaine. La coalition d'opposition conteste le travail de la commission électorale, commission qui place le président sortant Kenyatta en tête face à son rival Odinga. Le chef de l'État remporterait près de 54% des voix contre 44% pour son opposant. Situation qui ravive les souvenirs des graves violences électorales de 2007, des échauffourées entre police et manifestants ont d'ailleurs fait 4 morts hier dans plusieurs fiefs de l'opposition. Ce midi, les regards se tournent vers les missions d'observation internationales de ce scrutin. Bonjour Bruno Meyerfeld.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant en direct de Nairobi. Les experts envoyés sur place par l'Union européenne viennent de rendre leur première conclusion sur cette élection.
Oui, tout à fait. La conférence de presse de l'Union européenne s'est terminée il y a à peu près une heure. Alors, la délégation d'observateurs est menée par une députée européenne néerlandaise, Mariette Schaake. Elle a lu son discours froidement, sans trop sortir de ses notes. On comprend que chaque mot comptait. Elle a d'abord rappelé que le décompte était encore en cours et félicité les millions de Kenyans qui ont participé au scrutin. Alors, ses conclusions en quelques mots. Pour l'instant, a-t-elle dit, le vote et le dépouillement des bulletins ont été très bien conduits et transparents, sans aucun signe, dit-elle, de manipulation au niveau national, comme au niveau local d'ailleurs. Et tout ça malgré le peu de temps à la disposition de la commission électorale pour se préparer, et aussi malgré, il faut le dire, quelques couacs le jour du vote. Dans plusieurs endroits du pays, par exemple, les kits biométriques pour identifier les électeurs n'ont pas forcément très bien fonctionné. Mais rien de très grave selon elle, en tout cas rien qui ne compromette pour l'instant la crédibilité du scrutin. Le constat est donc plutôt encourageant et c'est en gros à peu près le même que les autres observateurs de l'Union africaine ou du Commonwealth qui se sont aussi exprimés ce matin. Alors, plus important encore, la délégation de l'UE a appelé au calme Odinga et tous ses partisans. S'il y a des violences, tout le monde perdra, a prévenu Mariette Schaake, qui a rappelé que chacun doit prendre ses responsabilités pour garantir le calme en cas de contestation. La justice doit être la seule route à prendre, a conclu Mariette Schaake. Tout donc vaut mieux, selon elle, que la rue et la violence.
Merci Bruno Meyerfeld pour vos explications. Vous étiez en direct de Nairobi, au Kenya. En Allemagne, Angela Merkel subit une baisse de sa popularité. Selon un dernier sondage, 59% des Allemands considèrent que la chancelière effectue un bon travail à la tête du gouvernement, baisse de 10 points par rapport au mois dernier. Mais ce recul n'aurait pas d'impact sur ses chances de remporter les législatives de septembre prochain. Les sociaux-démocrates sont en effet toujours à la peine dans les enquêtes d'opinion. Le SPD qui est même fragilisé dans son fief de la Basse-Saxe. À Berlin, c'est une correspondance signée Nathalie Versieux.
La Basse-Saxe est une région capitale pour le SPD, bastion de la social-démocratie et laboratoire politique tout à la fois. Cette région du centre du pays a été d'abord gouvernée par Gerhard Schröder avant de le porter au pouvoir à Berlin en 1998. Pour l'heure, les sondages ne peuvent guère laisser espérer à Martin Schulz, le challenger social-démocrate d'Angela Merkel, de l'emporter le 24 septembre face à la chancelière, d'autant moins que son parti vacille fortement en Basse-Saxe. Les sociaux démocrate risque bien de perdre le contrôle de ce land stratégique lors de régionales anticipées le 15 octobre prochain. Petit retour en arrière, lorsqu'il arrive au pouvoir dans la région en 2013, le social-démocrate Stefan Weil ne dispose que d'une courte majorité de une voix. L'alliance qu'il vient de conclure avec les Verts est alors des plus fragiles. Elle vient de capoter début août avec la défection d'une élue verte passée à la CDU. Le Parlement régional n'a donc plus qu'à se saborder pour convoquer des élections anticipées en octobre. Pour Martin Schulz, le feuilleton de Basse-Saxe tombe au plus mauvais moment, alors que selon un sondage publié ce matin, seuls 33% des Allemands sont satisfaits de son travail politique et que 30% d'entre eux souhaitent le voir arriver à la chancellerie.
Explication signée Nathalie Versieux à Berlin. En Turquie, la purge se poursuit dans le milieu journalistique. Le parquet d'Istanbul, qui mène une enquête sur les liens entre les médias et les réseaux du prédicateur Fethullah Gulen, vient d'émettre 35 mandats d'arrêt, 9 personnes déjà interpellées dans la matinée, dont bon nombre de collaborateurs de journaux nationaux. Ils sont soupçonnés d'utiliser une application numérique qui est considérée par Ankara comme l'outil de communication des putschistes de l'an dernier. Dans ce contexte d'inquiétude sur la liberté de la presse en Turquie, la Suède apporte de l'aide à l'un de ses ressortissants turcs, Hamza Yalçın, est détenu depuis son arrestation il y a une semaine à l'aéroport de Barcelone. Critique à l'égard du pouvoir d'Erdogan, qui l'accuse de terrorisme, ce journaliste a été arrêté jeudi dernier. La Suède tente alors qu'il est d'éclaircir les accusations. Mathieu de Taillac nous appelle de Madrid.
Hamza Yalçın se rendait à Londres. Il n'était censé faire qu'une escale à l'aéroport de Barcelone. Seulement voilà, quand le journaliste et écrivain a tendu son passeport à la police, une alerte Interpol s'est affichée sur l'écran. La Turquie le recherchait pour deux supposés délits. L'un d'injure au président après la publication d'un article, l'autre de lien avec une organisation terroriste d'extrême gauche. Yalçın nie les accusations et ses confrères en Suède défendent son innocence et son honneur. Les agents ont averti la justice et c'est l'audience nationale, le plus haut tribunal pénal espagnol, qui a décidé de l'envoyer en prison dans l'attente d'une demande d'extradition de la Turquie, en argumentant que Yalçın n'a aucune attache en Espagne. Ankara a 40 jours pour formuler cette sollicitude. La Suède, de son côté, réclame à l'Espagne de permettre à ses diplomates de rencontrer Yalçın à Barcelone. Quand la Turquie aura envoyé sa demande d'extradition, l'audience nationale devra l'autoriser ou s'y opposer. Mais à la fin, c'est le gouvernement espagnol qui aura le dernier mot. Madrid devra choisir de se fâcher avec la Turquie ou de provoquer la colère de la Suède, des organisations de défense des droits de l'homme et de la liberté de la presse.
La correspondance à Madrid de Mathieu de Taillac. La Corée du Nord précise son plan d'attaque contre l'île de Guam. Pyongyang souhaite tirer 4 missiles au-dessus du Japon et en direction de ce petit territoire des États-Unis situé dans le Pacifique. Le gouverneur de l'île assure que cet avant-poste stratégique des forces américaines est parfaitement équipé et que ses infrastructures ont résisté à de multiples typhons et séismes. Guam abrite également le bouclier antimissile sophistiqué dit système THAAD. Au Japon, alors que le site de Fukushima suscite toujours de nombreuses inquiétudes, une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte ce matin, et cela à seulement quelques centaines de mètres de l'enceinte nucléaire accidentée. Les explications à Tokyo de Frédéric Charles.
Des artificiers de l'armée japonaise examinent la bombe sur le site de la centrale de Fukushima. Elle mesure 85 cm de long pour 15 cm de diamètre. Ces militaires étudient la façon de la neutraliser, si la bombe présente ou non un risque d'explosion spontanée. Un périmètre de sécurité a été établi. Plus de 7000 ouvriers se relaient jour et nuit sur le chantier de la centrale de Fukushima, où le plus gros du travail reste à faire. Le retrait des combustibles des piscines de refroidissement et la récupération des cœurs des réacteurs 1, 2 et 3 qui sont entrés en fusion. La bombe se trouve dans le sol à une distance d'un kilomètre des bâtiments en partie détruits des réacteurs 2 et 3, où toute intervention humaine est impossible. La radioactivité reste trop élevée. Les experts japonais s'étonnent de la présence de cette bombe dans la centrale de Fukushima. Durant la guerre, le site abritait une base aérienne de l'armée japonaise. Il avait été bombardé par l'aviation américaine. Des précautions supplémentaires auraient dû être prises pour détecter la présence de toute bombe avant la construction de la centrale, estiment les experts. D'autant plus que les bombardements américains au Japon ont été beaucoup plus intenses que sur les villes allemandes.
Récit signé Frédéric Charles depuis Tokyo. Au lendemain de l'attaque de Levallois-Perret contre des militaires, attaque qui a fait 6 blessés légers, le député LR du Pas-de-Calais, Daniel Fasquelle, a également appelé ce matin à remettre à plat le dispositif Sentinelle. Le parlementaire dénonce également les coupes budgétaires dans l'armée alors que la menace terroriste n'a jamais été aussi forte selon lui. Le suspect, un homme de 36 ans, a été arrêté hier après-midi à Marquise dans le Pas-de-Calais au terme d'une course-poursuite sur l'autoroute A16. Blessé lors de son interpellation, il est toujours hospitalisé ce midi au centre hospitalier de Lille. L'école nationale d'administration, l'ENA, n'échappe pas au renouvellement dans la foulée de l'élection d'Emmanuel Macron. Un nouveau directeur vient d'être nommé en remplacement de Nathalie Loiseau. La haute fonctionnaire est partie fin juin au gouvernement pour remplacer Marielle de Sarnez aux affaires européennes. L'ENA, installée à Strasbourg, forme nos futurs dirigeants depuis 1945. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Hier en Conseil des ministres, un nouveau directeur a donc été nommé. Il s'appelle Patrick Gérard et son principal atout, visiblement, c'est de ne pas avoir fait l'ENA.
Oui, ne pas avoir fait l'ENA pour mieux défaire ou refaire l'ENA. C'est apparemment la feuille de route qui lui a été confiée par Emmanuel Macron. Lui-même, faut-il le rappeler, ancien élève de l'école promotion Senghor en 2004. Patrick Gérard, donc, c'est tout de même un ancien de Sciences Po Paris qui a fait carrière dans des cabinets ministériels à droite. Il a conseillé François Bayrou et Gilles de Robien à l'éducation nationale, Rachida Dati à la justice. Il a aussi été maire centre-droit de Vincennes dans l'Est parisien. Et c'est donc lui, Patrick Gérard, qui va devoir réformer en profondeur le sein des seins de la reproduction des élites françaises. Dans cette mission, aucun dogme, aucun tabou, c'est la consigne donnée par le président de la République. Et c'est pour ça qu'il a voulu un directeur qui ne soit pas marqué par l'esprit de corps de l'ENA. Car ce que le chef de l'État veut changer, c'est l'orientation des diplômés. Il n'est pas normal, selon lui, que les mieux classés choisissent des postes dans les grands corps de la fonction publique, Cour des comptes, Conseil d'État ou Inspection générale des finances, plutôt que de rejoindre les cabinets ministériels pour se consacrer aux priorités politiques de l'ambition gouvernementale. Emmanuel Macron veut donc des énarques qui s'engagent, qui retroussent leurs manches pour se frotter à l'exercice du pouvoir dès la sortie de l'ENA. Et ça peut surprendre quand on sait que l'élève Macron, en son temps, avait choisi, lui, de rejoindre l'inspection des finances pendant 3 ans, avant de passer au privé et à la banque d'affaires Rothschild. Il faut dire enfin que la refonte de l'ENA, c'est un vieux serpent de mer. Sous l'impulsion de la désormais ministre Nathalie Loiseau, les conditions d'accès au concours d'entrée avaient été repensées il y a 2 ans pour amener, nous avait-on dit, plus de diversité dans les profils des candidats recrutés.
Merci Camille Magnard pour ce portrait de Patrick Gérard qui est donc désormais le nouveau directeur de l'ENA. Toujours en France, la production industrielle a reculé d'un peu plus d'1,1% au mois de juin après avoir augmenté de près de 2% au mois de mai. Même tendance à la baisse pour la production manufacturière selon l'INSEE. Cette inversion de tendance touche tous les secteurs et notamment la production de matériel de transport qui avait bondi au mois de mai dernier. Alors que la saison des festivals musicaux bat son plein, avec en ce moment notamment le Festival Interceltique de Lorient, des mesures pour protéger l'audition du public ont été publiées hier, mercredi, au journal officiel. Un décret similaire existait déjà sur l'encadrement du niveau sonore des salles de spectacle, mais c'est la première fois que ces mesures concernent le plein air. Les explications de Marina Capitaine.
Des Eurokéennes au Hellfest, en passant par Rock en Seine, des festivals ont pour la première fois fait l'objet de mesures de leur niveau sonore à l'occasion de la préparation de ce décret. Une opération menée par Agisson, une association qui représente les professionnels du spectacle vivant. Pour elle, les festivals sont des bons élèves. La plupart auraient déjà décidé, en amont, d'appliquer la loi en vigueur pour les salles fermées, à savoir un maximum de 105 décibels. Ce plafond est abaissé à 102 décibels dans le nouveau décret et ce n'est pas le seul changement. Les festivals devront désormais mettre à disposition de leur public des zones de repos auditif, des lieux suffisamment isolés pour que le niveau sonore n'y dépasse pas 80 décibels et où les festivaliers, qui enchaînent souvent des heures de concert sur plusieurs jours, pourront mettre leurs oreilles au repos. Car elles souffrent aussi quand la durée de l'exposition au bruit est trop longue, même si le niveau sonore est raisonnable. Autre nouveauté, l'obligation de protéger les riverains. Et là, les organisateurs de festivals attendent les propositions concrètes des autorités, car il est par définition difficile de poser des limites à la propagation du son lors d'un événement en plein air. Les festivals devront aussi enregistrer et garder désormais une trace du niveau sonore de tous leurs concerts.
Explication signée Marina Kabitzen. L'organisation Mozilla, à l'origine du navigateur Firefox, amplifie ses efforts pour lutter contre les fake news, ces fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux notamment. L'ONG est en train de nouer des partenariats avec des rédactions. Objectif, créer un ensemble de logiciels pour instaurer la confiance entre les journalistes, leurs lecteurs et le grand public. La météo de votre après-midi avec des pluies orageuses sur la majeure partie du pays. Le temps restera ensoleillé sur le pourtour méditerranéen et la pointe bretonne, et les températures. Il fera 17 à Strasbourg, 19 à Cherbourg et Paris, 20 à Bordeaux, 23 à Lyon et 27 à Marseille et Ajaccio. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue à la technique. C'était Pierrick Monsigny.